Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et dans ce podcast, je te guide sur le chemin de ton aventure de freelance en partant à la rencontre d'entrepreneurs indépendants comme toi et moi. Dans cet épisode, j'accueille mon ami Valentin Descaires à mes côtés pour parler d'un sujet de fond pour absolument tout le monde, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs. Et ce sujet, c'est le sujet de l'apprentissage. J'imagine que tu l'as ressenti autant que moi cette année, plus que n'importe quel autre sûrement. Nous vivons dans un monde en constant changement, où les lignes bougent de plus en plus vite, et où chacun d'entre nous doit se réinventer pour avancer sur ses projets et plus globalement dans sa vie. Et du coup, face à cette accélération du changement, on doit nous aussi, en tant que personne, apprendre à évoluer, et donc apprendre de nouvelles choses, sur nous, sur le monde, sur nos compétences et notre métier, bref, tous les sujets qui touchent à notre personne et à notre activité d'indépendant. La lecture et l'écriture sont 2 des vecteurs que je considère être les plus puissants pour notre courbe d'apprentissage. Et Valentin ne vous dira pas le contraire, il a mis ces 2 sujets au cœur de son quotidien. Notre discussion creuse donc l'importance de ces habitudes, de ces pratiques pour progresser dans nos vies, découvrir les prochains pas de notre aventure, et globalement comment continuellement apprendre pour grandir. Je te souhaite une merveilleuse écoute, et on se retrouve à la fin de l'épisode pour le petit débrief. À tout à l'heure. Bienvenue sur le podcast, Valentin.
Mais merci Thomas, ravi d'être là après tout ce temps dont on discutait de cette interview. Là, je suis enfin heureux de la faire avec toi.
Carrément, et on a fait un petit entraînement en faisant un épisode de marketing indé, mais maintenant c'est oui. Le podcast central.
Prêt, cool. Très chaud.
Top. Pour rentrer directement dans le concret, et je vais te laisser du coup parler un peu de qui tu es, de ce que tu fais au travers de cette question, la première question rituelle que tout le monde attend. Comment mais surtout, pourquoi est-ce que tu es devenu indépendant?
Écoute, je suis devenu indépendant. Je commence par les modalités et après j'expliquerai le pourquoi. Donc, je suis indépendant depuis, on va dire, le début de l'année 2020. Après avoir fait 2 ans chez Live Mentor, qui est une boîte que je pense que tes auditeurs connaissent un petit peu, j'ai eu la sensation d'arriver à un point où si je voulais continuer mon développement personnel et même à plein de niveaux, tu vois, perso, des compétences que j'ai, des choses que je sais faire, des savoir-être, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je change d'environnement ou que je change un truc dans ce que je fais au quotidien. Et j'ai appris plein de choses chez Live Mentor. Ça m'a vraiment apporté plein de clés, plein d'outils pour ce que je fais maintenant. Et je suis immensément reconnaissant de mon aventure là-bas. Mais j'ai le sentiment que voilà, arrivé à la fin de ces deux années-là, que si je devais passer un palier, ça allait se faire en quittant Live Mentor et en faisant des projets pour moi et en me mettant à mon compte, en freelance, entrepreneur. Donc ça a été une réflexion. Me dire, voilà, ma courbe d'apprentissage, tu vois, je suis arrivé à tu peux toujours apprendre, bien sûr, mais je suis arrivé à un mini plateau, je pense, chez Live Mentor. Et je me suis dit, ok, maintenant, si je veux dépasser ce plateau et continuer à progresser, ça passera par, je pense, me mettre en indé. Donc, c'est ce que j'ai fait. Après, si on revient aussi sur le pourquoi, je pense que c'est un truc que j'ai en moi depuis toujours. Pendant longtemps, je savais pas trop comment ça allait se manifester, parce que quand t'es jeune, quand tu grandis, tu te poses plein de questions, tu t'essaies d'abord de refouler un peu ce sentiment, je pense. T'essaies d'abord de dire non, c'est risqué, enfin t'as plein de peurs qui te viennent et ton environnement t'encourage pas forcément à ça. Et donc tu dis je vais prendre une voie classique, j'ai fait une école de commerce, donc forcément tu veux la voie, c'est d'aller bosser pour une grande boîte. Moi, j'avais fait un stage en banque de 1 an. Enfin, pour moi, j'étais destiné à aller dans une grosse boîte et à faire une carrière là-bas. Sauf qu'au final, l'autre voie que j'essayais un peu de faire taire, à un moment, elle a pris le dessus. Et elle m'a fait penser, elle m'a fait dire que non, en fait, n'essaie pas de suivre une voie par défaut et n'essaie pas de faire un peu comme on te le dit ou comme tout le monde fait, mais essaye de suivre un peu tes envies, tes instincts, et puis au pire, si ça marchera pas, tu sauras rebondir. Donc c'est un peu comme ça que ça a germé. Mais comme je te dis, pour autant, je savais pas forcément comment ça allait se manifester, ce que j'allais faire, ce que je voulais faire même. Même aujourd'hui, tu me demandes ce que je vais faire dans 5 ans, ça reste assez flou. Mais j'ai le sentiment d'être sur la bonne route. Donc ça, c'est important. Mais donc j'ai toujours eu ce sentiment de me dire je veux faire des choses pour moi. Et ça se traduisait par, en fait, quand j'avais du temps libre, quand j'étais plus jeune, je faisais des projets. Je faisais plein de projets, des trucs qui n'ont pas forcément de sens ou qui n'ont pas forcément de rapport à ce que je fais maintenant. Mais la constante, c'était...
Je teste des trucs.
Être seul, voilà. J'aime être seul, j'aime faire des trucs, j'aime bidouiller sur l'ordi, je suis un peu un geek dans l'âme. Et donc, en fait, je pense que tout ça, ça a posé ça, c'est des graines que tu plantes, quoi. C'est des graines que tu plantes, que t'enrichis. Et quand tu prends la démarche consciente, je pense, de les nourrir, de les arroser, eh bien, à un moment, ça germe, ça donne des fruits, qui sont bons, qui sont mûrs. Et, alors, je dis pas du tout que je suis mûr aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai le sentiment, comme je l'ai dit, d'avoir trouvé, ma place, d'avoir trouvé l'environnement dans lequel je m'épanouis, je suis heureux. Et c'est en indé. Alors, je sais pas, tu vois, je sais pas quelle forme définie ça prendra, mais en tout cas, j'ai le sentiment de me sentir aligné avec vraiment ce que je suis au fond de moi, quoi.
Ouais. Et c'est intéressant que tu parles de cette espèce de plateau de courbe d'apprentissage et que par le passé aussi, j'ai l'impression que ta forme d'apprentissage du passé, c'était je passe à l'action, je teste des trucs, je fais des projets, j'avance et je vois où ça me mène et je vois quelles compétences je développe avec ça pour apprendre aussi de ah tiens, ça me parle, ça me parle peut-être moins, un peu en mode test and learn. Et je sais que un des tests, un des projets que dans lesquels tu t'es lancé et que tu as conservé depuis d'ailleurs, c'est l'écriture. Tu as commencé à écrire sur Internet il y a de longues années maintenant, et c'est un peu une constante que j'ai l'impression est toujours restée parmi tous ces projets, la fin de tes études chez Live Mentor et aujourd'hui aussi, ça fait une place centrale, quoi.
Ouais, il y a vraiment eu un déclic, je pense, quand j'ai commencé à écrire. Avant l'écriture, donc j'ai commencé à écrire en 2016. À ce moment-là, j'étais justement dans cette année de césure où j'étais à la banque pendant un an. Et en fait, avant ce moment-là, j'ai créé plein de petits projets, vraiment des trucs très très différents, même des trucs n'importe quoi. Mais la constante, c'était que ça n'allait pas au bout, et à chaque fois, j'arrêtais au bout de quelques semaines et je me lassais. Tu vois, j'avais ce truc de, j'avais cette peur même de me dire, j'ai peur de jamais réussir à me fixer sur un seul truc dans ma vie et de constamment suivre mes intérêts, ce truc de l'objet brillant là. Et j'ai vraiment eu peur de ça. Et avec l'écriture, je pense que, alors il y a eu d'autres conditions qui ont fait que, tu vois, le fait d'être dans un stage qui me plaisait pas et d'avoir une grosse remise en question sur ce que je voulais faire de ma vie et ce que j'allais pouvoir faire. Je trouve que ça a vraiment joué là-dessus, ça a joué comme un moteur. Tu sais, souvent la frustration, c'est le meilleur moteur pour démarrer. Et en fait, j'ai eu ces conditions qui ont été réunies pour que l'écriture devienne, effectivement, comme tu dis, la constante de tout ce que je fais depuis. Et ça m'a plu au début, tu vois. Vraiment, j'ai eu un intérêt pour ça. Et ensuite, j'ai réussi à switcher en mode pratique délibérée. Tu vois, ce truc de me dire... Je vois l'écriture non seulement comme un intérêt que j'ai et ça me fait plaisir et j'aime écrire. Tu vois, j'aime être seul chez moi le soir et tout seul et écrire. Mais je réalise aussi que l'écriture, c'est un moyen de me démarquer des autres. C'est un moyen d'apprendre pour moi. Tu vois, écrire, ça permet d'ancrer les apprentissages, ça permet de traduire tes pensées, de clarifier tes pensées. Et d'un point de vue également plus terre à terre, je vois que et des opportunités pour gagner de l'argent en écrivant, que ce soit en salarié ou que ce soit en indé comme aujourd'hui. Et donc tout ça a fait que je me suis dit, ok, il faut que je creuse l'écriture, il faut que j'essaie de devenir bon. Et bah comment tu deviens bon? Bah en pratiquant beaucoup, en étant régulier, en cherchant des feedbacks. Et donc c'est ce que je fais depuis maintenant 2016. Et ensuite effectivement l'écriture, ça m'a suivi dans tous les projets que j'ai faits. Ça a été la base de ce que j'ai fait chez Live Mentor, parce que du coup j'étais copywriter, donc j'écrivais les newsletters, articles de blog. Ça a ensuite, ça m'a suivi en freelance, vu qu'aujourd'hui en freelance, je suis copywriter, donc j'écris pour des clients. Ça m'a suivi quand j'ai lancé mon projet Source Writing, où j'aide des gens à écrire et je partage tout ce que j'ai appris depuis 3 ans. Et même là, sur le projet Longue Vue, déjà de base, je suis plus attiré par toutes les tâches qui consistent à écrire. Des emails, des newsletters, la page Ulule par exemple, tu vois, c'est moi qui l'ai écrit. Et donc en fait, c'est un peu la compétence de base que j'ai acquise. Et alors,
qui suit partout après, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors après, tu vois, peut-être qu'on pourra en parler, mais tu vois, je fais face à un peu un dilemme par rapport à ça. C'est peut-être un peu deux routes. Est-ce que tu te dis, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à développer un truc dans l'écriture, et donc je focus à fond là-dessus et je fais que ça. Et donc mon but, c'est vraiment de devenir très très fort en écriture, d'avoir un style vraiment trop bien et de vraiment tout miser là-dessus. Ou est-ce que je me dis, l'écriture, c'est bien, t'as une compétence, mais c'est aussi bien de développer d'autres choses, tu vois. Surtout pour moi, tu vois, qui a quand même envie de créer une boîte ou de monter un projet un peu qui me dépasse. Tu vois, c'est un peu l'envie que j'ai actuellement. Ouais. Est-ce que tu peux faire ça uniquement avec l'écriture comme compétence, ou est-ce que ça demande de toi d'acquérir d'autres choses?
Et là, du coup, c'est une bonne question.
Ouais, c'est hyper intéressant. C'est une question que je me pose souvent. Tu vois, l'une des biographies qui m'a marqué, que j'ai relu récemment du coup pour faire une newsletter Longue Vue, c'est la biographie de Robert Caro. C'est un biographe qui a écrit 2 biographies dans sa vie. Et qui a, en fait, la biographie qu'il écrit actuellement, celle de Johnson, elle est en 5 tomes, donc le président américain, elle est en 5 tomes, et il l'a démarré il y a plus de 40 ans. Donc, est-ce que la voie, c'est, pendant 40 ans, tu bosses sur un seul bouquin, parce que
l'œuvre
c'est ce
de
qu'il
ta
faut,
vie, quoi.
Parce que c'est comme ça que tu fais quelque chose d'exceptionnel, ou est-ce que tu passes par, enfin, tu apprends d'autres choses parce que c'est ce qui te permet de créer une boîte ou de, enfin, tu vois, c'est des questions qui sont compliquées.
Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vraiment une question de vision, finalement. C'est quoi les compétences que tu développes, les choses que tu apprends, t'as envie de les mettre au service de quoi? Et c'est ça aussi le guide, je pense, de se dire, est-ce qu'il faut que je sois ultra spécialisé sur une compétence et je deviens la personne référence pour un style Valentin Decker, par exemple? Ou est-ce que je vois un truc plus holistique, entre guillemets, qui prend en compte plein de facteurs? Et c'est une vraie question, je pense, pour tu vois, les profils qui sont entre freelance indépendant et la casquette un peu entrepreneuriale que je sais qu'on a tous les deux. On veut penser les trucs plus gros. Moi, j'ai envie de m'entourer d'une équipe, d'avoir des gens autour de moi. Et du coup, ça demande de développer plein d'autres compétences pour faire ça. Et du coup, pour développer ces autres compétences, tu sacrifies du temps, de l'attention et de l'apprentissage délibéré, de la pratique délibérée sur la compétence phare qui était la tienne au départ, quoi.
Ouais, tu es obligé de faire des choix. Alors, je trouve que c'est un bon choix et c'est une bonne question à se poser, mais tu es obligé de faire un choix et le risque, c'est un peu que tu fasses les deux, et du coup, tu fais les deux à moitié. Mais,
ouais.
Mais je pense que la réponse vient un peu avec le temps.
Complètement.
Et aussi, je sais que c'est un truc qui t'est cher, mais en expérimentant et en testant, quoi. C'est comme ça que t'apprends.
Ouais, et ta propre introspection de où j'en suis moi, qu'est-ce qui est important pour moi, ah tiens, je vois qu'en testant ça, ça parle à telle partie de moi qui a envie d'aller plus vers là et tel autre qui se dit bah ça c'est plus important ou moins important pour moi. Moi je le sens en ce moment par exemple sur ma compétence phare de base, c'est le branding, comment tu construis une marque forte et tu développes tout ce qu'il faut pour avoir une marque forte, que je faisais en freelance. Aujourd'hui je l'applique à moi et mon business, mais je sens que pour les clients j'ai de moins en moins l'envie d'aller chercher des nouveaux clients, faire des nouveaux projets pour d'autres clients, et envie de me focus de plus en plus sur les autres compétences transverses de ma propre entreprise à moi, quoi. Et ouais. Du coup, c'est hyper intéressant de voir ce switch.
Ouais, ben c'est, je pense que tu ressens exactement la même chose que moi. Et l'autre chose que je veux dire par rapport à ça, c'est que, alors on pourrait parler de, il y a plein, je trouve que ça touche à plein de sujets. L'un des sujets, ouais. Auquel je pense, c'est aussi le sentiment et qui est une peur, je pense, de se dire que tout choix est définitif. Tu vois, ouais. Tout choix t'engage forcément pour le reste de ta vie. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Tu peux faire un choix et en fait te rendre compte que dans 2 mois, bah ça marche pas et tu fais autre chose et personne t'en voudra et c'est même hyper sain. Et t'as le sentiment que chaque choix est décisif, que chaque choix. Alors certains le sont évidemment, mais pour ce genre de choses, tu peux toujours revenir en arrière, tu peux toujours trouver un chemin de traverse. Et rien n'est jamais voilà ancré définitif, quoi. Donc c'est bien de garder en tête pour dédramatiser la chose, quoi. Se dire bon bah
complètement.
Là je teste ça, on verra bien. Et l'une des
pendant
autres
X
manières
temps et...
exactement. Et justement l'une des manières de penser que j'aime bien, c'est raisonner en termes de printemps. Tu vois, c'est te dire ouais. Là pendant pendant 2 ans à venir, je vais faire ça. Et je vais essayer de faire à fond parce que ça marche quand tu le fais à fond. Et ensuite, on verra. Et peut-être que je vais changer. Et peut-être que je vais continuer. Mais juste se dire, c'est dans une phase de ma vie et ça m'engage en rien après. Je trouve que ça t'enlève un poids.
C'est clair. Ça me fait penser à, il y avait une conversation qu'on a eu avec Laetitia Vito pour un des autres épisodes de la saison 4 du podcast où on parlait de, on sort d'un modèle de vie en 3 phases où on apprend, on travaille et ensuite on est retraite, quoi que ce soit. À une vie multiphase. Genre, on a plein de phases dans notre vie. On va apprendre plein de fois à différents moments. On va faire plein de différents projets. On va se réinventer. On va avoir 4 ou 5 carrières. Et je pense que on est dans ce passage qui touche de plus en plus de personnes. Et c'est pas encore la norme de manière de réfléchir, de dire, c'est OK. Là, ça se trouve, moi, à un moment, je serai, peut-être que je serai naturopathe ou alors je ferai de la permaculture et je vendrai des fruits et légumes. J'en sais rien, en vrai. Mais qu'on apprenne à être à l'aise avec cette idée de se dire on va se réinventer tellement de fois qu'au final c'est jamais décisif, quoi.
Ouais, je suis évidemment d'accord avec ce que dit Laetitia, mais c'est difficile pour nous parce que on est un peu la première génération à le faire, et pour les générations d'avant et même pour notre génération on reste des exceptions. Moi, je vois dans mon école de commerce, ma promo, on doit être quelques-uns avec Alexis Minkela, on doit être quelques-uns à avoir ce parcours de vie-là. Tout le reste des gens, c'est plutôt une voie classique.
C'est pas la norme.
Donc c'est normal que ce soit stressant, c'est normal que ce soit angoissant, pas facile. Mais je pense effectivement que ça va, pour plein de raisons, mais ça va se généraliser. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on est pionnier d'un truc, mais on est un peu effectivement les premiers, le crash test de cette génération-là. Alors du coup, ça veut aussi dire qu'on a plein d'opportunités, parce que vu qu'il y a pas grand monde, c'est toujours pareil. Tu peux toujours voir une situation du bon côté, du mauvais côté. Et vu qu'il y a pas grand monde, en fait, ça veut dire que on a plus de lumière pour nous. C'est plus simple de se démarquer. S'il y avait plus de monde, ça serait plus dur, ça serait plus rassurant, plus réconfortant, plus simple de se lancer, mais plus dur de se faire une place.
C'est clair, c'est hyper intéressant de voir ça. Est-ce que tu penses que du coup la différence qu'il pourrait y avoir, parce que je la vis aussi avec pas mal de mes potes d'école avec qui je suis encore en contact de Dauphine, est-ce que tu penses que la différence, c'est peut-être le moment où, tu vois, tu parlais avec l'écriture de te dire « je passe de « ça me plaît » à « je me mets en mode pratique délibérée et je le mets dans tous mes projets ». Et ce truc de se dire, il y a des choses que j'ai envie d'apprendre, et peut-être que c'est sur le terrain, si je teste seul à développer des trucs, que ça va se passer, cet apprentissage.
Il y a de ça. Je dirais aussi qu'il y a d'autres facteurs. Pour moi, cette capacité à être à l'aise avec l'incertitude, à être à l'aise avec le fait de pas savoir comment tu gagneras de l'argent dans 2 mois, mais être confiant sur ta capacité à en gagner, c'est un muscle en fait. Et c'est un muscle que tu développes en faisant plein de petits projets, en te mettant un peu à l'eau. Seth Godin, il parle beaucoup de ça, il parle beaucoup du fait de, ship it, juste le fait de faire des choses. Même si tu gagneras rien avec, même si ça restera anonyme, ça restera confidentiel, en fait, c'est une habitude que tu prends. C'est un muscle que tu développes et en fait à un moment tu deviens entraîné, ça devient naturel pour toi et le jour où il faut te lancer, en fait vu que tu l'as fait depuis 5 ans, tu te lanceras sans problème. Alors qu'une personne,
t'as déjà développé le muscle.
Exactement. Alors qu'une personne, tu vois, qui a un CDI, alors encore une fois, enfin je vais pas cracher sur le CDI, mais une personne qui a été habituée à, comment est-ce que je peux dire ça, à
est-ce qu'on lui dise quoi faire, à être guidé, avoir un manager qui lui donne des tâches, et ainsi de suite, quoi.
C'est ça. Et en fait, le jour où tu veux te lancer, tu arrives pas parce que t'as pas les armes. Et l'effort, il te paraît insurmontable, il te paraît colossal. Et en plus, et plus t'attends, et plus t'as de l'arthrose dans les genoux, quoi. Et plus c'est dur de. Non mais c'est ça, c'est un peu ça.
Non, c'est clair. Parce que on parle de conditionnement entre guillemets. T'es conditionné à fonctionner de cette manière parce que tu l'as fait pendant tellement de temps. Du coup, c'est tout à fait naturel que quand tu dois trouver l'autre manière de fonctionner, parce que tu peux pas fonctionner pareil quand t'es indépendant, ça prend beaucoup d'énergie, quoi.
Et après, ton environnement, il se façonne en fonction de ce que tu es, de ce que tu fais. Et donc, si t'es que avec des gens qui ont que des carrières classiques, en fait, toi, tu vas être attiré vers cette voie-là. Et c'est normal. Alors que si t'es que avec des gens qui ont tous des chemins bizarres, qui font tous plein de projets, tu vas avoir tendance à faire comme eux. Et c'est pour ça que on parle beaucoup du côté communauté, petit groupe, être avec des gens comme toi, se tirer vers le haut, c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait, tu deviens les personnes avec qui tu traînes. Tu sais, il y a ce truc-là, tu es la moyenne des 5 personnes et ça, c'est un truc qui est extrêmement vrai et c'est... je pense que c'est l'un des plus gros hacks de la vie, je pense.
C'est clair.
Je suis assez convaincu que ça.
C'est clair. Et ça m'emmène à un autre truc dont je voulais parler. Cette conversation ne va pas du tout dans l'ordre que j'imaginais, mais c'est trop bien, j'adore.
C'est trop bien.
Rebondisse dans tous les sens, c'est toujours ça qui est top. Ce truc aussi que j'entends dans tuer les gens avec qui tu traînes le plus, je pense que ça se manifeste dans les personnes avec qui physiquement tu es et les gens avec qui tu t'entoures, mais aussi les gens de qui tu te nourris et de qui tu t'instruis et de qui tu apprends. Et on est dans ce moment, enfin, il y a tellement, de plus en plus de contenu, etc., etc. Les gens de qui tu t'instruis et que tu, avec qui tu passes du temps, entre guillemets, parce que tu regardes leur contenu, tu lis leur contenu, tu les écoutes. À mon sens, ça fait partie de ce truc de tu deviens les gens avec qui tu passes du temps. Et je sais que toi, c'est un truc qui t'est cher par rapport à la lecture, par exemple, de rentrer un peu dans comment réfléchit une personne, comment elle a construit telle ou telle chose qui m'inspire et que j'aimerais construire aussi et essayer de comprendre ça.
Ouais, c'est un truc. La lecture a été hyper importante dans mon développement. Tu vois, j'ai commencé vraiment à me mettre à la lecture en même temps que j'ai écrit. Donc, toi, j'ai eu un gros moment de phase de transformation personnelle. Je me suis dit, ok, je veux bateau, mais arrêter de subir, je veux prendre ma vie en main, je veux être voilà capitaine de mon bateau. Et la lecture m'a aidé à ce moment-là en me disant, il y a plein de mecs qui ont des idées incroyables, qui ont vécu des vies exceptionnelles. Il faut se nourrir de ça. T'as des trésors là accessibles pour 10 euros, 20 euros. Ne laisse pas passer ça. Et donc complètement aligné avec toi, je pense que tout ce qui te nourrit et tout ce que tu consommes a un impact sur qui tu es.
Grave.
Et ça veut dire que tu peux façonner qui tu vas devenir en consommant les bonnes choses. Et inversement, je pense que c'est aussi une spirale extrêmement négative, tu vois. Et ça peut t'emmener à des coins vers lesquels t'as pas envie d'aller. Mais parce que tu ne consommes que ça, et ben en fait t'as du mal à sortir de ça. Et justement, je trouve que il y a une énorme opportunité à vraiment te façonner un environnement, un quotidien dans lequel tu discutes ou tu te nourris des idées des personnes qui t'inspirent et vers lesquelles tu veux aller.
Et mettre de la conscience dessus, quoi.
Ouais, exactement. Et alors, je fais une petite transition, mais c'est en partie pour ça qu'on a lancé Longue Vue avec Jean-Charles Coeur d'Ali, parce que justement nous on trouve que lire des biographies, en fait tu t'entoures de gens exceptionnels, tu consommes la vie de personnes qui ont vécu des choses de dingue avant toi, qui ont eu des accomplissements incroyables, et en fait ces vies là elles regorgent d'apprentissage. Et toi qui t'apprêtes à construire ta vie, tire des leçons des gens qui l'ont fait avant
toi.
C'est clair. Et c'est pour ça que la lecture, mais au même titre que la vidéo, que le podcast, que tous ces contenus-là, ils sont hyper puissants. Parce qu'ils te laissent vraiment l'opportunité de devenir, tu vois, qui tu veux être.
Ouais. C'est un truc qui est beaucoup, tu vois, Tony Robbins, il en parle beaucoup dans le coaching aussi. Il parle de modeling. Genre, la manière la plus rapide de faire quelque chose ou devenir qui t'as envie de devenir ou toutes ces phrases qu'on pourrait mettre derrière, c'est de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait et de modeler de manière hyper précise ses actions, mais aussi son état d'esprit, sa manière de voir le monde, sa manière de se comporter, genre même physiquement, et vraiment de modeler cette personne. Et je trouve que effectivement, comme tu le dis, les biographies, la lecture, c'est des outils qui nous permettent de faire ça pour rentrer vraiment dans c'est quoi être cette personne et comment moi aussi je peux m'instruire de son parcours de vie pour instruire comment moi j'ai envie de développer mon projet ou travailler sur tel ou tel aspect de mes différents domaines de vie, etc., quoi. Donc clairement, je trouve que au-delà même de la lecture, ça rejoint un espèce de une pensée plus large de comment je fais pour développer mes projets et m'instruire de personnes qui l'ont déjà fait avant moi, plutôt que juste faire les trucs dans mon coin en me disant bon ben je vais tester ça sans savoir comment ça va marcher.
Exactement. Et alors, j'ai plus la phrase exacte, mais j'avais lu un truc qui disait t'as deux choix, soit tu expérimentes par toi-même les choses et tu fais toutes les erreurs qu'il faut faire pour y arriver, soit tu regardes les erreurs, enfin soit tu laisses les autres gens faire les erreurs et tirer des leçons de ces erreurs là. Et en fait c'est un énorme raccourci, et c'est ça que permettent les biographies, mais pas seulement, plein de contenus de ce style-là. Moi, j'ai aussi le souvenir de quand j'étais chez Live Mentor. Je sais que l'un des réflexes qu'avait Alex, donc le CEO Alexandre Dana, c'était que dès qu'on fait face à une situation, dès qu'on avait un truc nouveau auquel on était confronté, le premier réflexe c'était OK, qui peut nous aider? Qui a déjà vécu ça? Qui est passé par là? Et en fait, peut-être tu lui envoies un message, tu lui envoies un email, tu vas lire un article qu'il a écrit, et tout de suite tu vois beaucoup plus clair sur la situation, t'as des clés de réponse, et en fait tu gagnes un temps fou en fait. Le fait de parler le fait d'aller voir, le fait de s'inspirer, de lire des gens qui ont déjà vécu ce que tu vis ou ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est un énorme raccourci.
Ouais, c'est clair. Et ça rejoint un truc, du coup, je me dis, nous qui créons du contenu, il y a sûrement une part des personnes qui nous écoutent qui ont accès à ce genre de choses, du coup, parce que toi, je sais que c'est quelque chose que tu fais, et moi, j'essaie d'être hyper transparent sur ça aussi, de partager les apprentissages de notre chemin, de partager qu'est-ce qu'on découvre, de partager toutes les leçons qu'on tire de tout ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, je me dis, en t'entendant parler, je me dis, c'est presque un devoir de tout créateur de contenu, ouais, de le faire pour notre communauté et les gens qui nous suivent, de se dire, bah, ok, je viens de vivre un truc, c'est mon devoir d'instruire l'espèce de connaissance commune du monde en mettant ça quelque part pour que d'autres personnes puissent ensuite en apprendre et aller plus loin que nous derrière grâce à nos erreurs.
Ouais, hein, t'as raison. Et d'autant plus que on n'est pas beaucoup à être dans ce milieu-là. On est une minorité par ce qu'on disait avant. Et ça va devenir de plus en plus la norme. Donc, ouais, on a d'autant plus, tu vois, ce truc de mission de se dire, bah, comment est-ce qu'on partage tout ce qu'on fait, quoi. Et comment on donne des clés, ouais, aux autres qui aimeraient suivre le même chemin, mais qui ne savent pas comment faire.
Ouais, grave, hyper intéressant. Ouais,
d'accord avec toi.
Et un autre truc aussi sur ça, c'est en créant du contenu nous par derrière, et notamment l'écriture, pour toi, tu parlais tout à l'heure de bah, c'est un vecteur d'apprentissage qui est fou, et je trouve que nous aussi, pour plus ancrer les leçons qu'on tire de ça, créer du contenu derrière et ouais, en écrivant par exemple, moi, même juste dans mon journal, par exemple, j'ai un journal que j'essaie de tenir régulièrement. J'arrive pas tous les jours, évidemment, parce que c'est une discipline. Mais juste écrire sur comment je me sens, les fois où je suis stressé, ok, d'où ça vient, et essayer d'écrire dessus pour identifier. Ça m'aide à beaucoup plus rapidement identifier, ok, c'est où le manque à gagner, c'est quoi la leçon à tirer de ça. Et le faire publiquement, en plus, dans une newsletter. Moi, c'est surtout dans ma newsletter que j'écris le plus.
Ouais.
Bah, c'est ouf l'apprentissage encore plus grand qu'on fait, parce qu'on retient beaucoup plus des leçons, quoi.
Ouais. L'écriture a beaucoup de clarté, apporte beaucoup de clarté. Et moi, je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que plus j'écrivais et plus j'avais envie d'écrire des articles que je savais pas écrire. Plus j'avais envie de toucher à des thèmes que je maîtrisais pas. Plus j'avais envie de parler d'idées encore auxquelles j'étais pas sûr ou j'étais pas convaincu ou que j'arrivais pas vraiment à matérialiser. Et parce que justement, ouais, le fait de te dire j'écris dessus, ça te force à faire des recherches, ça te force à clarifier ce truc-là, ça te force à comprendre. Et
ouais,
et ensuite, et là où l'écriture est un très bon test, c'est que si tu ne comprends pas profondément ce que tu veux écrire, ça va se sentir quand tu vas l'écrire et quand on va te lire.
Ouais.
Et je pense que, et là c'est un exercice qui est vraiment que tout le monde peut faire, c'est de se dire regarder un article ou un newsletter ou même un podcast, peu importe, qu'on a produit il y a 3 ans, et juste regarde la différence avec aujourd'hui. Ouais, ça te vrai. Montre le progrès que tu fais, un progrès que tu n'es pas conscient au quotidien, vu que tu vois, les changements ils sont tout petits, donc ils sont pas assez gros pour être observés. Mais par contre, quand tu te retournes en arrière et que tu regardes ce que tu as fait il y a 2-3 ans, tu vois une énorme différence. Et tout ça, bah, c'est tout ce que t'apporte la création de contenu, quoi.
Ouais, et c'est le fruit de la pratique délibérée dont tu parlais au début. C'est un levier exponentiel d'apprentissage et de croissance, en fait. Parce que plus, avec l'exemple que tu prends sur les articles que tu maîtrises pas, plus tu vas le faire, plus tu vas comprendre les mécanismes d'apprentissage sur des sujets que tu maîtrises pas, donc plus rapidement tu vas apprendre sur des sujets que tu maîtrises pas, donc tu pourras aller chercher des sujets encore plus complexes dans le futur, et au final ça te donne une espèce de clé de lecture de ok, pour n'importe quel sujet que je maîtrise pas, je peux apprendre dessus en allant lire et m'instruire de personnes qui l'ont déjà fait, et ensuite en créant un truc avec mon regard sur la chose et me forçant à aller vraiment documenter et faire les recherches.
Ouais. Et exactement, et tu développes un muscle qui va être de plus en plus utile, qui est celui de toujours se mettre en question, toujours être capable d'apprendre n'importe quel sujet rapidement, être capable d'en maîtriser les principaux éléments. Et c'est quelque chose où, dans un monde où tout va de plus en plus vite, où les outils évoluent super vite, c'est hyper important de rester, d'avoir cette capacité d'adaptation et de toujours rester flexible, de toujours être capable de « Ok, il y a ce nouveau truc-là qui émerge, je veux l'apprendre. » Je sais que je vais réussir à l'apprendre. Hyper important.
Et du coup, il y a un questionnement qui me vient par rapport à ce qu'on se disait un peu plus tôt sur tu sais pas si c'est l'écriture, la compétence qui te parle le plus ou ouais. si c'est les, aller vers d'autres compétences, etc. Je me demande pour toi, est-ce que c'est pas plutôt ce truc-là de te challenger à apprendre des nouveaux trucs qui est plus important encore que la lecture, que l'écriture?
Ouais, je pense. Moi, sur la question, du coup, avec ce que je fais actuellement, j'ai fait le choix de ne pas devenir un spécialiste technique. J'ai fait le choix de ne pas devenir, de ne pas focus à fond que sur l'écriture. Mais j'ai fait le choix ouais. de m'ouvrir à d'autres choses. Et je pense que c'est ce que te permet le fait d'être entrepreneur et de créer tes projets. Parce que du coup, ça fait appel ça demande que tu développes et que tu apprennes rapidement sur le tas plein de choses. Tu vois, moi, exemple concret, je vais devoir créer un Shopify, connecter un fournisseur, gérer le SAV. Enfin, c'est plein de trucs que j'ai jamais fait. Et ce challenge m'excite, tu vois. Moi, ça m'excite ouais. là de me dire, et j'ai limite hâte de faire le Shopify pour me dire, purée, c'est galère et tout. Et comment est-ce que je trouve des réponses? Comment je trouve des solutions? Parce que c'est hyper excitant.
Ouais.
Là, pareil, ça faisait 2 mois avec Jean-Charles qu'on bosse sur le crowdfunding pour Longue-Vue. Pareil, challenge hyper excitant. Comment tu crées une page qui donne envie? La vidéo, jamais fait. Donc, comment tu fais un script intéressant? Comment tu mobilises ouais. des partenaires? Enfin, tu vois, il y a plein d'aspects qui sont hyper intéressants, qui te font progresser. Et je pense que c'est ce que te permet l'entrepreneuriat. Beaucoup plus que n'importe quoi.
Ça a été quoi?
C'est toujours.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais. C'est toujours te remettre en question, toujours devoir apprendre de nouvelles choses. Et en fait, plus ta boîte ou ton projet avance, et plus tu vas devoir faire des choses différentes, et plus tu vas devoir. En fait, tu dois te réinventer à chaque fois.
Ouais. C'est un truc que je ressens de ouf sur l'indépendance. L'indépendance, c'est une forme d'entrepreneuriat de toute façon, mais encore plus quand t'es seul, c'est un chemin de presque de développement personnel qui est fou parce que t'as pas d'autre choix que de te frotter à des difficultés, à des grosses claques que tu te prends, à des fois où tu vas te sentir pas du tout à l'aise et pas du tout dans ta zone de confort. T'as pas d'autre choix. Ça va arriver forcément.
Ouais.
Et du coup, c'est ouf à quel point ça te fait progresser sur tous les aspects de ta vie.
Ouais, et moi je suis j'ai un mantra que je me répète souvent et qui me sert un peu de guide, c'est dès que t'as peur d'un truc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu vois, la peur c'est une boussole. Et
ouais.
Et je trouve que c'est extrêmement vrai, ça fait bien écho à ce que tu viens de dire parce que la peur en fait, c'est synonyme de développement. Tu vois, c'est synonyme que ouais. tu vas apprendre quelque chose, c'est synonyme que tu vas surmonter un blocage que tu rencontres. Et c'est comme ça en fait que tu progresses, que tu dépasses tes plafonds, que tu ouvres tes horizons. Et,
ouais.
et moi j'ai souvent cette réflexion. Je me dis putain ce truc là, j'ai pas trop envie de le faire. Ah si je peux ne pas le faire. Et je me dis non.
Ça anime un petit truc ouais.
C'est ce qu'il faut que tu fasses.
Ouais, hyper intéressant. Ben ça vient. Je sais que il y a quelqu'un qui t'inspire pas mal qui est Ryan Holiday. Et il a justement un livre. Je pense qu'il instruit cette réflexion-là, qui est « The obstacle is the way ». Retour sur ce truc de la lecture, ce livre, ça t'apprend des autres manières de regarder le monde qui peuvent être tellement plus à ton service. Et grâce à un bouquin, comme tu disais, c'est fou. Ouais. Pour 10 balles, le savoir infini auquel on a accès, c'est absolument incroyable, je trouve. Et ça illustre bien avec un principe clé de vie comme celui-là, ça se trouve dans un livre, quoi.
Ouais, non mais c'est clair. Et oui, Ryan Holiday, c'est un auteur qui m'inspire parce que lui, il a pris la voie du technicien. Tu vois, je deviens très fort en écriture, mais je sais aussi qu'il développe à côté d'autres choses. Tu vois, il a une boîte de conseil en marketing. Du coup, il fait d'autres choses et je trouve que ça c'est un mode de vie qui à un moment m'inspire énormément. Là, qui m'inspire un peu moins, mais que j'adore toujours et parce qu'en plus, ces bouquins sont toujours pleins de sagesse, et ils renferment des leçons.
Ouais.
Tu vois, celle que tu viens de citer. Moi, l'autre livre qui m'a marqué, c'est L'ego et l'ennemi. Hein. En fait, il te fait 300 pages sur l'ego et tu te rends compte que c'est brillant et c'est souvent des réflexions que j'ai. C'est souvent des trucs où quand des fois mon ego prend un peu le dessus, je repense à ce livre et je me dis, OK, calme-toi, apaise-toi. Enfin, des réflexions, mais c'est hyper fort. Et
c'est clair.
Et oui, c'est dingue que le pouvoir
qu'un lit, qu'un objet qui coûte une dizaine d'euros peut avoir cet avis. Et c'est pour ça
ouais,
que.
C'est fou.
D'ailleurs, Holiday, il a une règle que je suis aussi maintenant et que je m'adapte à suivre, c'est je ne regarde jamais le prix d'un bouquin. En tout cas, si vraiment je veux un livre parce que je sens qu'il va me faire progresser, tu vois, son prix n'est pas un obstacle pour moi.
Ouais.
Parce que je sais que potentiellement le ROI, tu vois, le bénéfice que je vais pouvoir en retirer, il est beaucoup plus grand que ça.
Il est énorme.
Sur tous les points de ma vie.
C'est clair. Ben, je te rejoins de ouf parce que c'est quoi, les livres les plus chers, ça coûte 40-50 euros pour les livres un peu spécifiques. Genre moi, j'ai un gros bouquin que j'avais acheté au tout début de ma carrière de freelance sur le branding, avec beaucoup de méthodos, beaucoup de travail de fond sur le fait d'être un stratège de marque indépendant. Et c'était énorme ce que ça m'avait apporté. Et oui, il coûtait 45 euros, mais clairement, comme tu dis, le ROI pour mieux gérer tes missions, signer des clients plus gros parce que tu as une méthode vraiment poussée, il est énorme.
Ouais.
Donc ouais, c'est quoi clair. 45 balles pour ça, quoi.
Et
c'est fou.
Et j'aime beaucoup aussi la métaphore de se dire que ton cerveau, c'est ton OS, tu vois, ton système d'exploitation. Et en fait, les livres, ce que tu consommes, en fait, c'est juste, tu le nourris, tu l'upgrades, tu le mets à jour.
Ouais, mise à jour.
Et vu comme ça, en fait, c'est tellement naturel, c'est tellement normal de le faire tout le temps. Plutôt que se dire, je construis mon OS jusqu'à mes 20 ans, pendant mes études, hein, et après, je laisse tomber et
après,
je passe toute ma vie là-dessus. C'est dingue de dire ça.
Ouais.
Tu penses comme ça, c'est incroyable.
Grave.
Et du coup,
c'est clair,
toutes les décisions que tu prends, tu peux les regarder à la lumière de ça. Est-ce que ça upgrade mon OS? Est-ce que je fais des choses qui vont me permettre de passer un palier dans mon développement, à tous les points de vue? Est-ce que justement, ce qui te fait peur, c'est ce qui fait progresser ton OS. C'est ce qui te fait passer un palier. Et je trouve que c'est hyper puissant de raisonner comme ça.
Ouais, c'est clair. J'adore. Et ça nous permet d'orienter tellement de décisions dans notre vie et de bonnes habitudes au service de ça. C'est une habitude qu'on partage de mettre la lecture, par exemple, comme on parle beaucoup de ça là en ce moment, au cœur de nos rituels de vie et de notre quotidien, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai ce truc depuis les dernières années de me dire, faut que tu lises au minimum du minimum 10 pages, mais idéalement 30 minutes par jour.
Ouais.
Je sais pas si toi tu fais encore plus loin que ça parce que c'est encore plus au cœur de ta vie.
Ouais. Ouais, moi je sans caricaturer ou sans abuser, mais je pense que j'ai toujours un livre avec moi depuis 4 ans. Genre où que j'aille, il y a un livre dans mon sac. Sur ma table de chevet, il y a un livre. Il y a pratiquement partout où je vais, il y a un livre. Et même quand j'étais en salarié, tu vois, où le rythme était quand même assez intense, j'étais à Paris, j'avais du temps de trajet. Je mettais un point d'orgue le matin dans le métro, quitte à ce que je sois serré, mais j'ai un livre en main. Et parce que, tu vois, j'ai ce sentiment que, sur le moment, tu te dis, oui, bah, là, je les 10 pages, c'est chiant, enfin, ou qu'est-ce que ça m'apporte? Mais, 10 pages fois, 300 fois 10 ans, 10 ans, en fait, le résultat, il est colossal. Et c'est ce truc des intérêts composés. Ouais. C'est ce truc de dire, chaque petite action, dans le bon sens, à la fin, ça te permet d'avoir les résultats que tu veux. Ça te permet de devenir qui tu veux être. Et oui, donc, et pareil, dans ma journée, j'ai des blocs de temps et je me dis, OK, là, j'arrête de travailler, je vais lire. Même si c'est, même s'il y a des trucs à faire, c'est important que je nourris ce rituel, c'est important que je sois rigoureux avec ça et que je me laisse pas avoir. Mais je me dis, à midi, avant de manger, je lis une demi-heure, le soir, je lis une demi-heure, avant de me coucher, j'essaie de lire un peu. Et comme ça, tu lis un livre par semaine et t'en lis 50 par an et t'en lis 500 en 10 ans et à la fin, ça fait une différence incroyable.
Et c'est clair. Et moi, une pratique que je mets en place aussi pour qu'on apporte des choses concrètes aussi pour les gens qui nous écoutent sur ça, un truc que je mets en place en ce moment, c'est en fonction de mes objectifs du moment et de la planification de comment je développe mon business, je sélectionne les livres que je lis sur mesure pour ça. Là, par exemple, récemment, dans les derniers mois, je travaillais beaucoup sur mon séminaire Excellence Marketing Indépendant que j'ai fait juste là le week-end dernier. Et du coup, toutes mes lectures étaient orientées sur état d'esprit sur le marketing, pousser plus loin ma connaissance là-dessus, revisiter des classiques genre This is Marketing de Seth Godin aussi, juste pour que mon cerveau il baigne dans c'est quoi toute la sagesse que je peux apporter aux gens qui vont suivre ce séminaire. Et je l'ai fait de manière consciente parce que je savais que c'était le sujet du moment où il fallait que j'assure dans mon business.
Ouais, et c'est ce que permettent aussi les livres, c'est de te dire, en fonction du stade où tu en es, du développement où tu en es ou de tes problématiques, tu peux trouver des livres adaptés à toi. Si tu démarres, ouais, tu as besoin d'inspiration. Tu as besoin qu'on te montre que c'est possible, tu as besoin qu'on te montre différents chemins, tu as besoin, et c'est là où les biographies sont hyper utiles. Je trouve que ça t'offre plein de modèles, plein d'exemples que tu peux répliquer. Et ensuite, plus tu avances et plus tu peux aller vers des livres précis, un peu comme toi, te dire, ok, là, je sais que je vais avoir ce besoin-là, donc je vais m'enfiler les 3 livres de référence sur le sujet. Et en fait, je sais qu'après, j'aurai les bons outils pour faire ce que je dois faire, quoi. Donc, hyper utile de faire ça. Ouais.
Je viens d'avoir une pensée, du coup. Je veux bien savoir ce que t'en penses, parce que je trouve ça un parallèle intéressant. Est-ce que une newsletter personnelle, ce serait pas en quelque sorte une biographie en construction, mais genre en live, tu vois? La biographie, c'est souvent post-rationalisé, ou une autobiographie, c'est post-rationalisé, où tu suis tout. Et je viens de me dire, tiens, une newsletter, tu vois, genre moi, le truc que je pense que j'aime le plus dans ma semaine, c'est le jeudi matin, je m'installe et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine d'important dans ma vie, où je peux apprendre un truc et je peux le partager avec les gens qui suivent ma newsletter. Et du coup, je viens de faire le parallèle de, c'est presque une, ils sont en train de lire la biographie de ma vie qui s'écoule avec les semaines, en fait.
Et c'est exactement ça. Et ce qui peut être fou, c'est de le faire dans l'objectif d'écrire une biographie. Tu vois, c'est de se dire vraiment.
C'est incroyable.
Là, j'en écris pendant 4 ans. Et à la fin, ça me fait 200 newsletters, et je mets ça bout à bout et ça me fait une biographie. Et ça serait fou. Et oui, et je trouve que ce qui est fort quand tu crées du contenu, ou ce que tu peux faire, c'est que t'as pas besoin d'être l'expert du sujet, mais tu peux partager au fur et à mesure ton voyage, ton aventure. Et quand tu prends cette posture-là, je trouve que c'est hyper puissant. Et alors, tu sais, il y a souvent cette peur de pas être légitime, le syndrome de l'imposteur. Mais je trouve que tant que tu dis, je suis personne, c'est juste mes pensées, ça n'a pas foi d'évangile, ça n'a pas valeur de dictionnaire. C'est juste, voilà, moi, je ressens ça. Voilà ce que j'en pense, de manière hyper humble, hyper modeste, hyper voilà. Et je vous partage modestement. Et je trouve que c'est hyper puissant. Ouais. Et toi, ça te permet de progresser à plein de niveaux. Comme on l'a dit, écrire sur un sujet que tu maîtrises pas, en fait, c'est ce qui te fait apprendre, quoi. Et donc, c'est grave. Tu peux dire la newsletter, c'est en apprendre à découvrir qui tu es et en apprendre sur toi.
C'est le journal de l'explorateur et de l'aventurier qui part dans la jungle et qui sait pas ce qu'il va y trouver, quoi.
Ouais, exactement.
C'est hyper intéressant. Et je pense, je crois que t'en avais parlé peut-être dans Tuk Tuk avec Alexis ou un truc comme ça, la différence de, pour un indépendant, le positionnement expert avec lequel il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément à l'aise, ou on dit il faut se spécialiser, il faut être l'expert de ta thématique, etc. Mais quand tu démarres, c'est très difficile. Enfin, tu te sens pas légitime de te dire je suis un expert ou un spécialiste de ça. Et ce positionnement de l'explorateur pour un freelance, il est hyper intéressant, je trouve, de dire j'ai envie de comprendre parfaitement tel sujet, donc je pars en quête de cet apprentissage, et c'est ça que je partage dans mon contenu, et c'est ça que j'apporte à mes clients, tout ce que j'apprends sur la route, parce que j'ai décidé de dédier les prochaines années de ma vie à ça.
Ouais.
Et ce positionnement, effectivement, je le trouve cool pour se lancer et emporter des gens aussi avec soi dans cette découverte.
Ouais, non, mais aligné avec toi. Ce qui est dur, c'est que tu te dis, et c'est vrai aussi, que tes clients ne veulent pas un work in progress, mais ils veulent quelqu'un qui soit déjà bon. Ouais. Donc c'est là où c'est difficile. Mais en revanche, il y a différents types de clients. Il y a différents niveaux de mission aussi. Et donc, et je pense que la bonne manière de faire, c'est comme tu l'as dit, c'est de démarrer. En fait, c'est un escalier. Tu peux pas démarrer tout en haut. Tu peux pas démarrer, je suis expert, j'ai les meilleures missions. Tu prends des missions à ton niveau où tu démarres, et progressivement tu progresses. Et ce qui est important, effectivement, c'est toujours te dire, toujours être en quête d'apprentissage, toujours être en quête de comment est-ce que dans la mission suivante, là, je passe un palier. Et je pense que ça passe par faire des choses auxquelles t'es pas forcément à l'aise. Tu vois, ça passe par dire oui à des missions sur lequel t'es pas forcément sûr de pouvoir délivrer, parce que c'est comme ça, en fait, que tu te mets au niveau et que tu délivres. Mais je pense que tant que tu as cette approche humble et tant que tu ne survends pas la chose, je pense qu'il y a aucun problème. Et en fait, et tu te rends compte que alors c'est pas longtemps que je suis dans le domaine du freelancing, mais que des experts, ça existe pas en fait. Personne n'est expert de quoi que ce soit. Tout n'est que chantier perpétuel, apprentissage perpétuel. Et quand tu comprends ça, ça va. C'est fine.
Ouais. Et puis finalement, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que le fait de se définir expert, ça entraîne pas aussi le fait d'arrêter de se pousser à apprendre parce qu'on se dit, ça y est, je maîtrise, je m'arrête et j'arrête d'enlever les nouvelles couches des poupées russes infinies sur mon sujet.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est l'ego. Dès que tu crois que tu es arrivé quelque part, t'es en danger. T'es en mauvaise posture. Alors que justement, garder cet état d'esprit perpétuel de je suis un étudiant, il me reste beaucoup à apprendre, c'est hyper fort. Et ça s'applique à tous les domaines. Et j'avais vu cette courbe où au début, quand tu apprends un sujet, tu crois tout maîtriser rapidement. Et plus tu avances, et plus tu te rends compte qu'en fait, tu maîtrises rien du tout et que tu as encore beaucoup de trucs à apprendre.
Et qu'il faut aller de plus en plus dans les micro-détails pour continuer de développer ta maîtrise.
Ouais. Et quand tu regardes tous les plus grands penseurs, les plus grands génies, ils te disent tous que en fait ils ne savent rien, qu'il leur reste une montagne de connaissances à accumuler. Et c'est dingue. Et pour moi ça c'est hyper, ça te rend beaucoup plus humble. Te dire que ce mec là, qui est arrivé à ce niveau là, il te dit que même à ce niveau là, il lui reste encore plein de choses à apprendre.
Il sait rien.
Tu te dis, mais qui suis-je pour revendiquer quoi que ce soit, tu vois. Qui suis-je pour avoir des certitudes sur quoi que ce soit? Et c'est hyper, ça te remet les pieds sur terre.
We know nothing.
Exactement. Mais
c'est une bonne pensée. Moi, en vrai, ça fait du bien de se dire ça.
Ça fait tellement
du bien. Ça veut dire que on a un seul rôle, c'est apprendre et continuer de tester des trucs pour apprendre.
Et parce que je pense qu'on est, on est poussé, à montrer des certitudes. Tu vois, on est poussé à faire bonne figure, à savoir ce qu'on fait, à être sûr de soi. Alors qu'en fait, la bonne approche à avoir, je pense que c'est tout l'inverse. C'est te dire, mais je sais rien du tout, j'ai tout à apprendre. Voilà, il y a ce truc-là que j'ai fait, que j'ai vu, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. C'est vraiment ce truc-là qui est la bonne approche à avoir. Et tu te rends compte qu'en fait, tu attires les gens, tu attires des projets quand t'es vulnérable et quand tu montes tes faiblesses et pas quand tu fais le gros dur qui sait tout, quoi. Et ça, c'est, je trouve que c'est tellement, libérateur de penser comme ça. De te dire, en fait, je dois pas être parfait. Au contraire, je dois avoir des faiblesses. Ça, c'est trop cool, je trouve.
Ouais, c'est clair. Ça sera sûrement, du coup, en lien avec ça, mais on va arriver sur les questions rituelles de fin d'épisode. Et la première question, c'est, si t'étais face à Valentin, c'est son premier jour en freelancing, donc c'est une version plus jeune de toi, même si c'est finalement assez récent, ton lancement en tant qu'indépendant. Mais c'est quoi le conseil que tu lui donnerais par rapport à où il en était au moment où il se lance?
Je lui dirais, rien n'est grave. Rien n'est grave. Tu peux toujours te planter, tu peux toujours faire des erreurs, tu peux toujours foirer une mission. Heureusement, ça n'est pas encore arrivé, mais tu peux toujours avoir un client pas content, tu peux toujours rater un projet. C'est la vie, c'est normal. Tu peux pas tout réussir et surtout je dis ça parce que et on en a parlé un peu tous les deux il y a pas très longtemps. On peut, quand t'es indé, et c'est ce que je disais avant, il y a toujours deux revers d'une même médaille. Quand t'es indé, le positif, c'est que tu es responsable de toi-même, tu décides de tes journées, tu décides de avec qui tu travailles, tu décides de tes missions, tu es au contrôle de ta vie. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe dans ta journée, dans ton mois, tu contrôles presque l'argent que tu gagnes, tu peux choisir de prendre plus de missions, moins de missions, voilà, tu as du pouvoir. Ça, c'est positif. L'aspect négatif, c'est que, du coup, t'as plus de pression, t'as plus de responsabilités, et t'as moins droit, entre guillemets, de te laisser aller. T'as moins le luxe de le faire. Et ça vient avec une charge mentale, une pression permanente en fait, parce que bah vu que ça dépend de toi, bah ça dépend de toi, et donc faut que tu te bouges le cul, et donc faut que tu fasses les choses, et donc tu peux vite être dans un état où t'es tout le temps stressé, t'es tout le temps en quête de purée, il faut que je finisse ça, t'es tout le temps en mode à fond, et du coup ça en fait ça rend tes journées pas si cool que ça au final. Si t'es tout le temps en mode purée, j'ai plein de trucs à faire encore, j'ai pas assez avancé, j'ai pas été productif à 1000% là. Oui, c'est bien, mais on peut toujours mieux faire. En fait, tu passes à côté de la vie qui est aussi savoir chiller, savoir te détendre, savoir accepter que t'as des jours où ça va moins bien.
Ouais.
Des fois, ralentir un peu. Et c'est pas facile parce que surtout, et moi, je suis le premier à le faire, mais surtout, quand on se pousse tous à être plus productif, plus efficace, plus intelligent, plus malin, machin. Quand des fois ça va pas, tu te dis putain mais qu'est-ce que je fais quoi, et juste te dire surtout rien n'est grave,
ouais.
Ça va aller.
C'est intéressant parce que je pense tout indépendant a vécu cet état d'esprit que tu disais un peu à un moment donné de j'en fais pas assez, faut que j'aille plus loin, etc. Alors même que pour énormément de personnes la raison pour laquelle on devient indépendant et on se lance en freelance c'est pour se dire je veux moins de ça dans ma vie et je veux plus avoir d'espace pour moi la personne quoi.
Ouais.
Et on s'inflige l'inverse.
Ouais. Ouais,
c'est fou je trouve.
C'est clair. Mais moi, j'ai beau me dire là je prends plus de mission, je suis full, j'ai mes projets. Quand il y a une mission qui vient, j'ai du mal à dire non. J'arrive pas à dire non, mais c'est vrai hein. C'est
fou.
Et pourtant, tu vois, moi je cherche pas du tout à maximiser l'argent que je gagne. C'est cool d'avoir de l'argent, mais je fais pas du tout mes choix en fonction de ça. Mais en fait tu te mets constamment une pression même par rapport à ça, par rapport à plein de trucs, c'est difficile hein, donc c'est pour ça que voilà, mon conseil que je me donnerais c'est déstress, c'est pas grave, si la mission tu la foires bah tant pis, c'est pas très grave,
tant pis, ça arrive.
Ouais, ça arrive.
Très bon lien avec la deuxième question rituelle de fin de podcast du coup, qui est c'est quoi la plus grosse difficulté que t'as vécue dans ta vie indépendante et comment t'as fait pour la dépasser?
Je dirais que pour l'instant, et je touche du bois, j'ai pas trop de difficultés. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir de réussir à trouver des clients assez facilement et les missions sont plutôt bien passées, donc là-dessus je suis assez content. Mais effectivement, le truc qui est délicat c'est ce que je disais juste avant, c'est arriver à lâcher prise, arriver à trouver le bon équilibre entre mes projets perso, qui sont, je pense, ce qui m'épanouit vraiment, plus que le freelancing, mais également, en fait, t'as quand même besoin de manger, de gagner de l'argent, et donc, faut que tu fasses des projets. L'équilibre, il est vraiment pas simple à trouver. T'as beau le savoir, tant que tu y es pas confronté, c'est difficile. Et moi, j'ai ce fameux truc aussi d'arriver à dire non. Tu sais, quand tous les mecs disent ça, mais tant que tu n'es pas vraiment confronté, je trouve que tu réalises pas vraiment à quel point c'est dur et à quel point
c'est clair.
Tu peux te laisser avoir par ça. Et donc ce truc de me dire non, en fait là c'est assez, là j'ai pas besoin de plus, c'est important et c'est un truc auquel j'ai un peu de mal encore.
Et je pense que c'est de plus en plus dur en plus, parce que plus on progresse, plus on développe un réseau, une marque personnelle forte sur un sujet, et plus on va loin et on satisfait des clients, plus on s'attire des opportunités de plus en plus sur mesure et de plus en plus stylées, auxquelles c'est de plus en plus dur de dire non. Un exemple typique, je suis dans une mouvance où j'essaie de prendre de moins en moins de missions pour me concentrer de plus en plus sur le contenu et le coaching pour les indépendants. Et la semaine dernière, je me fais appeler pour une mission... une des potentielles plus grosses missions que j'ai pu faire en freelance sur une stratégie pour une marque, mais au niveau international où ça touche plein de pays et tout. Et du coup, j'étais au téléphone et je me dis, putain, j'avais envie de dire non à toutes les missions qui arrivent, mais celle-là, juste, j'y arrive pas, quoi.
Ouais, c'est super dur. Et des fois, quand je veux pas une mission, tu sais, tu mets des prix plus chers. Tu dis, bon, bah.
Et il signe quand même.
Voilà. Je monte le prix. Et bon, bah, à ce prix-là, je le fais quand même. Mais. Et du coup, tu te pièges quand même, quoi. C'est dingue.
Bah, c'est la leçon qu'on n'a pas encore apprise et qu'il faut qu'on continue d'expérimenter.
Exactement.
Et du coup, dernière question. On se tourne cette fois-ci vers les auditeurs. si t'avais une question que t'as envie de poser aux gens qui nous écoutent, ouais, pour qu'ils prennent un vrai temps de réflexion sur leur vie d'indépendant et sur leur activité, c'est quoi cette question?
Ça serait, si vous deviez faire vos choix uniquement en raisonnant à 10 ans, qu'est-ce que ça impliquerait de différent? Qu'est-ce que tu ferais de différent si tu t'essayais pas d'optimiser pour le mois là, mais pour les 10 ans qui viennent? Qu'est-ce que tu apprendrais? Qu'est-ce que tu créerais comme contenu? Qu'est-ce que tu ferais de, quelle rencontre tu ferais? Quel choix de vie tu ferais si t'avais en, pour seul horizon de temps, 10 ans? Et encore une fois, quand t'es indépendant, t'es vite happé par le quotidien, t'es vite happé par la mission, par le projet. Il faut que tu réussisses ton mois, il faut que ça aille bien. Et du coup, tu peux avoir tendance à délaisser le long terme, parce que le court terme est déjà hyper prenant. Mais c'est bon de garder en tête toujours l'horizon, allez, 5-10 ans. 10 ans, c'est difficile, mais 5 ans. En te disant, qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux développer? Qu'est-ce que je peux, voilà, ouais, faire grandir, qui aura de la valeur dans 5 ans? Pas aujourd'hui, parce que ça prend du temps, mais si tous les jours je fais ça, dans 5 ans, ça fera un truc de malade.
Excellent. Les auditeurs de ce podcast adorent les questions difficiles qui font beaucoup réfléchir, donc je pense que même 10 ans, ce sera un challenge à la hauteur. Ils seront à la hauteur de ce challenge.
Parfait.
En tout cas, j'adore cette question, Valentin, merci. Je me tâche de la repartager un maximum pour que les gens se la posent.
C'est un bon appel à avoir régulièrement.
C'est clair, merci pour ça. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent discuter avec toi, en savoir plus sur tes projets du moment et suivre un peu tout ce que tu fais?
Alors, pour me suivre, je suis actif sur Twitter et LinkedIn. C'est juste Valentin Decker. Et puis, pour soutenir mes projets, j'ai actuellement, alors ça dépend à quelle date vous écoutez ce podcast, mais du 15 septembre au 15 octobre, on a une campagne de crowdfunding sur Ulule pour un projet qui s'appelle Longue Vue. Donc, je pitch Longue Vue en une minute, Thomas, si tu me permets.
Je te le permets.
Merci beaucoup. Donc, Longue Vue, c'est un club de lecture centré autour des biographies. Donc, il y a deux choses. Tous les mois, on envoie une biographie qu'on trouve hyper inspirante, hyper enrichissante, directement chez vous. Et en plus, le but, c'est que vous soyez pas seul avec vos livres, mais que il y a une communauté pour discuter et aller plus loin que juste la lecture du livre. On invite également l'auteur du livre, quand c'est possible, ou un invité, un expert sur le sujet, pour vraiment ancrer l'apprentissage et voilà, s'entraider sur plein d'aspects. Donc, on a un crowdfunding actuellement pour financer le projet sur Ulule. Et vous pouvez aller sur longuevue.co et il y aura toutes les infos.
Excellent, merci beaucoup Val, ça incarne bien toutes les discussions qu'on a eues aujourd'hui.
Voilà, ça fait pas mal de rebonds. Ouais.
Et je fais une petite précision en lien avec ta question. Quand tu parles de 15 septembre, on est en 2020, et comme j'ai l'ambition que ces épisodes soient encore valables en 2025 et en 2030, dans 10 ans, je le précise pour les gens qui nous écoutent et qui sont en 2030.
Très bon. Très très bon. Et bonjour à vous aussi. J'espère que le monde est encore debout.
Moi aussi. Super, merci beaucoup Valentin.
Merci Thomas, c'était trop bien.
C'était avec grand plaisir.
Plaisir partagé, c'est trop cool.
Ciao.
À bientôt.
J'espère que tu as noté la question de Valentin parce que clairement, c'est une belle pépite. Si tu écoutes ce podcast depuis un moment, tu connais mon amour pour les questions qui changent notre manière de voir le monde, notre vie intérieure et notre activité, et celle-là, clairement, c'en est une. Alors, je vais te la répéter. Si tu devais faire tes choix, avec comme seul horizon de temps, dans 10 ans, donc le long terme, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu changerais dans ton quotidien? Avec quel client tu voudrais travailler? Quelle décision tu prendrais pour ton business, pour ta vie? J'ai l'impression que notre attention et nos intentions viennent constamment être perturbées par la gestion du court terme, de l'urgence du moment, de tout ce qui se passe juste là à nos pieds devant nous. Et que du coup, on oublie beaucoup trop souvent la vision long terme et donc la direction qu'on veut donner à notre activité et à notre vie. Et j'espère vraiment que cette question fera office d'ancrage pour toi dans cette quête de se reconnecter au long terme et aux choses les plus importantes, tout en kiffant notre quotidien.
Si cette question et l'épisode du jour t'ont plu, alors ce serait juste formidable de ta part si tu pouvais laisser un commentaire et une belle note de 5 étoiles sur ton application de podcast favorite et venir rejoindre la conversation autour de cet épisode et autour de ta vie de freelance sur Instagram sur @thomas.burbidge. En tout cas, un grand merci pour ton écoute et pour ta confiance. Et on se retrouve tout bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.